La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Triste nouvelle pour nous, nous avons appris que nous avions perdu un ami musicien, un très grand musicien. Et figurez-vous que nous avons appris ça tout récemment, mais il est mort depuis plus de 6 mois. Comme quoi les nouvelles ne vont pas forcément très vite. Il s'appelait
Buster Cooper.
Et il jouait du trombone.
On va commencer bien sûr par sa naissance.
En 1929.
À Saint-Pétersbourg. Ah, vous me direz comment ce noir habitait donc en Russie? Pas du tout. C'était Saint-Pétersbourg.
Floride.
Ah, oui.
De même que Bill Coleman était né à Paris, Kentucky.
Et oui, il y a des petites plaisanteries comme ça qui se font géographiquement.
Il y a même un Paris, Texas très célèbre grâce au film de Wim Wenders. Nous avons eu l'occasion de le fréquenter assez souvent quand il venait en France. Et un jour, où nous lui demandions « Mais d'où vous vient ce surnom de Buster ?»
Parce qu'il faut savoir que Buster, ce n'est pas son prénom, c'est son surnom, Buster.
Et ça veut dire « phénomène ».
Et oui, parce que le gars Buster, quand il est né, il était tellement grand et gros, je crois que c'était 7 kilos.
Exactement. Et ça l'a bien fait rire, mais nous, on a pensé à la pauvre, pauvre maman.
Tout le monde l'a surnommé Phénomène, Buster, et ça lui est complètement resté toute sa vie.
D'ailleurs, c'était un phénomène du trombone, comme vous allez pouvoir entendre peu à peu dans cette émission. Le père de Buster était paysagiste et avait d'ailleurs une entreprise. Et le jeune Buster a donc grandi paisiblement dans la bonne bourgeoisie noire de Saint-Pétersbourg. Il a été au lycée et puis un jour, au moment pile où un cousin batteur lui proposait de lui apprendre la batterie, il est tombé en arrêt devant la vitrine d'un prêteur sur gage, sur un
trombone. Alors un trombone, vous savez tous, c'est un instrument très long et qui s'allonge encore avec la coulisse. Et c'est sûr que ça peut absolument fasciner un enfant, hein, cet instrument-là.
Il était complètement scotché à la vitrine et finalement, le papa est entré chez le prêteur sur gage. Et il a acheté le trombone. Et c'est comme ça que Buster a commencé sa carrière de tromboniste, parce qu'il l'a appris tout seul ensuite. Et c'était le premier des 7 trombones qu'il a utilisé. Comme il était très doué, il a très vite pu jouer dans un orchestre. Et la première trace enregistrée de Buster Cooper, c'est déjà avec des musiciens assez connus à l'époque, l'orchestre de Charlie Singleton, où vous allez voir que, sauf le trombone, tout le monde était victime d'une sorte de parkyrite aiguë. Le morceau s'appelle
Broadway Beat. Thank you.
partir de là, Buster Cooper s'est orienté vers la musique et un beau jour, il a quitté l'entreprise familiale pour tenter sa chance. Il a beaucoup bourlingué. Et un beau jour, il a quand même été remarqué par Lionel Hampton, où il a passé 2 ans. Mais on n'a pas de trace de ça, parce que Buster était un très bon lecteur, et il était très apprécié comme musicien de pupitre. Et puis on ne lui laissait pas trop de solo. Alors bref, là, on ne sait pas bien. Et finalement, c'est avec un Hamptonien, le saxo-ténor Arnett Cobb, que Buster va commencer à être connu grâce à un disque, parce que Arnett Cobb, qu'il a un peu pris sous son aile peut-être pendant un moment, lui a proposé d'enregistrer avec lui.
Maintenant, vous allez entendre Cobb's Mob. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cobb, c'est Arnett Cobb. Et Mob, ça veut dire un gang, une bande. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un, un jour, qui a dit à Arnett Cobb, votre orchestre, ça fonctionne tellement bien, ils sont tellement serrés, ils s'entendent tellement bien, vos gars, on dirait un gang. Je ne sais pas si c'était vraiment un compliment, mais...
Peut-être qu'il a voulu dire une équipe, hein, on va savoir.
Oui,
avec ses Américains.
On va savoir.
Le deuxième morceau, parce qu'on va passer 3 morceaux de ce fameux disque, car c'est un disque qui est resté assez marquant. Le deuxième morceau, donc, s'appelle « Let's Split ».
Blues Around Dusk.
Et dans ces 3 morceaux-là, on entend vraiment très bien le jeune Buster Cooper. Et les oreilles des critiques se sont alors dressées jusque en France, puisque ce disque a été également publié en France.
Thank you. Thank you.
Buster Cooper, ça y est, il vient en France. Parce qu'il y avait très souvent des contacts de musiciens France-Amérique, Amérique-France, etc.
Et il avait monté un petit orchestre avec son frère Steve qui jouait de la trompette et l'ancien batteur de Lonnie Lampton qui s'appelait Curly Hamner, qui était aussi un fameux danseur à claquettes. Bref, ce petit orchestre-là, il a beaucoup plu et le voilà, devinez où et devinez avec qui.
Ah, avec la célèbre. Célébrissime Joséphine Baker. Vous savez, celle qui portait un pagne en banane. Ça vous dit quelque chose? J'ai deux amours, mon pays et Paris. Chante quand même moins bien qu'elle.
C'est pas bien ce que tu fais là. Si Nicole Rochelle écoute notre émission, je vais recevoir.
Elle va pas être contente. Bref. Bref.
Alors, ils restent un certain temps en France. C'est comme ça que, finalement, on les a assez connus. Et puis, en fait, son activité essentielle en Amérique, il est freelance. Hein, tu sais, il est un rock and studio. Il court les studios, il accompagne des tas de chanteurs. Et... c'est un métier. Hein.
Et oui, parce que lui lit très bien la musique.
Ah oui, il est recherché à cause de ça. Puis, c'est un type extrêmement sérieux. Il est, lui, privé, sur lequel je ne m'étendrai pas à l'époque, parce que c'était un sacré foiré d'honneur. Mais, dans le métier, il était sérieux. Il a tellement... attirer l'attention que Duke Ellington a souhaité le recruter. Et il a refusé. Il a refusé deux fois.
On se demandait bien un peu pourquoi, mais le connaissant, c'était à la fois un type sérieux, mais assez indépendant. Et chez Ellington, souvent comme dans les grands orchestres, hein, il fallait que ça marche à la baguette.
Ah bah oui, là, ça rigolait pas. Hein.
Quand le Duke, il avait dit quelque chose, c'était « Yes, sir !» Voilà.
Oui. Oui, c'était oui, ou même un simple signe de tête. Quand tu assistais aux répétitions de l'orchestre, il y avait un nombre de choses non dites absolument incroyables. C'est passé dans les regards, dans les gestes. Enfin, Duke revient à la charge, et puis finalement, en 62, Buster accepte d'entrer dans cet orchestre illustre, et il y remplace Britt Woodman. Alors, il se demande un peu s'il a bien fait, mais il a dit plus tard, c'est la meilleure décision de toute ma vie, parce que je vais vous dire une chose, je suis resté 7 ans chez Duke Ellington. Quand on sort de chez Ellington et qu'on cherche un engagement quelconque, dans un orchestre, dans un studio, on ne passe jamais d'audition. C'est pas la peine, on est pris. J'ai vécu tout le reste de ma vie sur le fait que j'avais joué chez Ellington.
Ouais, c'est un sacré tampon, là. Hein.
Ça, c'est sûr.
Voici deux morceaux où on entend vraiment bien Buster. Le premier...
Non-violente intégration. Ça, c'est un morceau politique tout à fait étonnant pour son arrangement. D'ailleurs, parce qu'il y a une sorte de rumeur par moment qui est donnée par les trompettes bouchées. Il y a tout un tas de choses qui se passent dans ce disque. Et
il y a un final fou avec Cat Anderson.
Ah oui, là, le pape du suraigu a encore frappé ce jour-là. C'est absolument incroyable à entendre. Vous pouvez attacher vos ceintures.
Et pourtant, comme on vous l'a souvent dit dans cette émission, il n'avait pas une trompette spéciale, hein. Il y a des gens qui jouent avec une espèce de trompette très petite qui leur permet de faire des suraigus. Non, non, disait-moi, je prends ma trompette et puis je vais en haut.
Absolument, absolument. L'autre morceau s'appelle « The Life I Lead ». Et ça, c'est...
Ah, c'est tiré de Mary Poppins.
Là, on entend Buster Cooper vers la fin du morceau.
We'll be right back.
assez peu de passages en solo par Buster Cooper chez Ellington, parce qu'il en jouait assez peu. À l'époque où il est entré, il était à côté de Lawrence Brown, qui faisait la plupart des interventions en soliste.
On vous a dit qu'il avait beaucoup hésité à rentrer chez Ellington, et il y avait de sacrées règles chez Ellington.
Et des règles non écrites, pire. Parce qu'Ellington avait horreur que ses musiciens aillent faire des disques de leur côté, sous leur nom.
Comme tous les patrons, il n'aimait pas que ses employés, si on peut dire, entre guillemets, aillent voir ailleurs que chez lui. Et il y avait toujours une tentation des musiciens de... Parce qu'ils étaient très sollicités, c'était d'excellents musiciens. Il y avait, quand, dans une ville, à Paris, à Milan ou ailleurs, quand ils faisaient leur tournée, en leur disant « Vous ne voulez pas faire juste un disque, etc. » Bref, très sollicités. Et Duke trouvait que ces gars, s'ils commençaient à faire un disque, ils allaient être moins performants pour les concerts, et qu'ils seraient peut-être en retard, et qu'ils ne se réveilleraient pas le lendemain matin. Bref.
Et puis qu'ils ne contrôlaient pas la chose.
Ah oui, il n'aimait pas ça.
Non, il n'aimait pas ça. Alors chez Ellington, il y avait le premier cercle, ceux du début, les historiques, Harry Carnett, Johnny Hodges, Scotty Williams. Alors ceux-là pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils en profitaient d'ailleurs assez peu, sauf Hodges. Alors là, non, là, on leur disait jamais rien, c'était la première. Alors, il y a le deuxième cercle, avec des gens comme Cat Anderson. Et c'est justement ce que vous allez entendre, car Cat Anderson souhaitait enregistrer. Et personne ne voulait se mêler de ça, car personne n'avait envie de subir les gros yeux d'Ellington.
Ah oui, les foudres du maître, attention.
Oui, parce que si vous étiez un critique connu, comme c'était le cas d'Hugues Panassier, qui avait supervisé un disque de Cat Anderson à une époque, il s'était fait sacrément remonter les bretelles. Donc, c'est sur moi que c'est tombé, puisque moi, j'avais juste 20 ans, et personne ne me connaissait, et j'organisais donc ce que vous allez entendre, les deux escapades non autorisées de Cat Anderson, à qui j'ai demandé, parce que j'avais entendu Buster Cooper dans le disque d'Arnett Cobb, à qui j'ai demandé de faire venir Buster dans le petit orchestre qu'il avait réuni. Vous allez donc entendre enregistrer en 64, le jour même de ma majorité, un blues, parce que j'avais demandé aussi qu'il y ait un blues dans le programme, un blues qui s'appelle « A Chat with Cat ». Après cette séance-là, Cat Anderson m'a dit « Bon, vous l'avez votre Buster ». Enfin, il était très content parce qu'il avait très bien joué. Je ne sais pas comment, mais Cat s'est très bien tiré de cette affaire, ça ne s'est pas trop su. Donc l'année d'après, on a recommencé avec des musiciens de Claude Bolling et des musiciens d'Ellington mélangés. Et Cat avait écrit un arrangement exprès pour Buster.
Qui s'appelle, devinez, trombone Buster. Comme on était dans le studio, il y avait une sorte d'effervescence des ingénieurs du son qui allaient presque se dire « Merde, comment on fait ?» etc. etc. Pourquoi ? Eh bien parce que Buster Cooper avait une telle capacité à jouer infiniment doucement ou infiniment fort qui surprenait un petit peu tous ses techniciens pour que le son ne sature pas. Les types étaient, ils n'avaient jamais vu ça. Quelqu'un qui était capable de jouer avec ces différences incroyables de puissance.
Là, il y avait de sacrés chocs acoustiques dans les micros et il a fallu s'y reprendre à trois fois. Donc le morceau que vous allez entendre en second, ce fameux trombone Buster, c'est la troisième prise que vous allez entendre parce que les deux autres ont été arrêtés en route, ils n'y arrivaient pas.
Donc, A Chat with Cat et trombone Buster.
Run, run, run.
D'entendre. Quelle virtuosité, hein.
Quelle attaque également, c'était absolument incroyable. On était complètement sciés dans le studio d'entendre ça, y compris Claude Gousset, qui était un des meilleurs trombonistes français, qui était là pour d'autres morceaux. Mais ça ne s'en est pas tenu là, car quelques jours après la publication du disque, Buster a été convoqué chez Ellington.
Alors là, on n'aime pas ça, hein. Quand le chef vous dit « Venez voir, j'ai deux mots à vous dire », Buster est entré dans la pièce, Ellington lui a rien dit, mais il a simplement posé un disque sur la platine, a mis le disque et l'a passé.
Le pauvre Buster était dans ses petits souliers, très ennuyé, et Duke lui a dit « Mais ne soyez pas gêné, Buster, c'est vraiment très bien, j'aime beaucoup, c'est même si bien qu'à partir de maintenant, vous allez jouer ça tous les soirs, j'ai le morceau qu'il faut. »
Ouf.
Oui, mais attention, c'est une chose de faire ça en studio, c'est assez éprouvant, mais là, c'était sur scène tous les soirs. Le morceau s'appelle The Opener, et ben le voici, vous allez voir, naturellement, c'est encore Cat Anderson qui fait un final absolument aussi dingue que celui de tout à l'heure. Mm-hmm.
bout de 7 ans, hein, c'est pas 7 ans de réflexion, hein, mais c'est 7 ans. Et ben, il finit quand même par quitter Duke Ellington parce que c'est quand même tourné sur tourné, la vie de famille en prend un coup. Bref, il le quitte en bons amis, hein, bien sûr.
C'est certain, mais je te signale quand même que quand il l'a quitté, il avait tout juste 40 ans.
Oui.
Finalement.
Et oui, il avait commencé très jeune.
Alors après ça, bien, comme il l'a lui-même dit, hein, ben, moi j'avais joué chez Ellington, toutes les portes étaient ouvertes. Donc, il mène une vie de requin de studio, comme à ses débuts d'ailleurs. Mais à mon avis, à un autre tarif. On l'a vu en France avec des tournées organisées par Black & Blue.
Et il s'est installé à Los Angeles parce que là, il y avait une telle activité musicale qu'il pouvait vivre là-bas sans avoir besoin de partir ailleurs.
Ah oui, là, tranquille, il a absolument accompagné tout ce qui se présentait, jusqu'à Frank Sinatra inclus. Et puis, nous avons été amenés à reprendre, dans les années 80, le Festival de Jazz de Montauban. Et pour l'édition de 89, nous avions choisi comme thème les rencontres. Et là, nous avons l'idée, totalement saugrenue, mais pas idiote, de confronter Buster Cooper au trombone qu'il avait remplacé chez Ellington, Britt Woodman.
C'était quelque chose d'assez courant en Amérique, ces espèces de batailles d'instruments. Parce que les Américains aiment beaucoup les compètes. Et alors, évidemment, y en a toujours un qui dit « Oui, oui, moi je veux bien !» Et l'autre qui dit « Oh là là, comment je vais faire ?»
C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que quand Britt Woodman est arrivé au festival, il m'a dit « C'est vrai que c'est un set à deux trombones avec Buster Cooper ?» J'ai dit « Oui, c'est vrai. » Vous êtes complètement fou, vous voulez me faire jouer avec ce monstre? Je lui ai dit, écoutez, je pense que ça ne va pas vous poser beaucoup de problèmes et je pense que ce sera un très beau set. Alors, sa femme, là, qui était avec lui, l'a chambré là-dessus et puis, bon, ça s'est...
Allez, il s'est jeté à l'eau.
Et il y avait avec eux une très belle rythmique, la rythmique du festival, parce que nous avions une rythmique du festival. Jackie Williams à la batterie, Roland Lebligeois, formidable bassiste français, et Ralph Sutton au piano, qui était un des derniers très grands pianistes Stride de l'école, Willie Smith le Lion, Fats Waller, etc. Et au moment de monter sur scène, Roland Lebligeois nous regarde et dit « Mais vous êtes complètement fou !»
Ah bon, de quoi? Comment?
Mais de me demander de faire ça, c'est complètement dingue, vous vous rendez compte avec qui vous me mettez? C'est des gens qui jouent complètement comme des fous. Ben, j'ai dit « Mais Roland, c'est bien pour ça qu'on t'a demandé de faire la contrebasse. Je crois que t'es le seul à pouvoir faire ça. Voilà, c'est tout. » Alors Roland m'a regardé un peu de travers et m'a demandé un verre de cognac. Parce que là, il fallait qu'il se donne du courage. Il est monté sur scène et ça a été un set formidable.
Ce set mémorable, enfin la fin.
C'était la reprise, parce que les gens, naturellement, voulaient tenter plus. Et ces messieurs ont choisi Cotton Tail, qui est un morceau de fou. C'est une composition de Duke Ellington qui a un côté complètement bredin, je trouve. Joué par deux trombonistes complètement fous. Voilà, c'est le final de notre hommage à Buster Cooper.
Et maintenant, vous le connaîtrez mieux, ce tromboniste-là. Hein ?
Sacré Buster. Thank you.
On trombone. Yeah. Mother Ralph Sutton on piano. Sutton. And Roland Robidge Weiss. And my good friend Mr. Jackie on drums. I've been knowing him from New York for years. Thank you, thank you. You've been a wonderful audience. Formidable, believe me. Treasurely, treasurely. Thank you very much. And coming up next will be the Ralph Sutton Trio. Thank you very much. Hey.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.